Bonjour à tous, bienvenue sur Télépro. Aujourd'hui, nos invités, Gérard Holz et Julien Holz. Bonjour.
Bonjour David.
Bonjour David.
Je suis tellement content de vous recevoir. Alors, c'est vrai que je dois avouer, Julien, que je connais plus Gérard que vous, Julien. Je dois vous avouer. Mais je suis tellement heureux de vous recevoir tous les deux. Parce que voilà, Gérard, moi, c'est mythique. C'est incroyable. Et vous allez venir nous parler ensemble de votre livre, Sans histoire de légende, La conquête de l'impossible. Magnifique bouquin. Merci Gérard de nous le présenter, ce bouquin. On va en parler ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, la question des lecteurs, un coup de pression, et on terminera par dans la vraie vie. Ok, messieurs?
Ok.
Allez, c'est parti, question promo. Comment est venue l'idée de faire cette collection, parce que c'est une collection des 100 histoires?
C'est Julien qui répond.
Alors, c'est tout simple. En fait, c'était en 2012. En fait, c'est Grunt, notre éditeur, qui est venu voir Gérard et lui a dit: voilà, en 2013, c'est la centième édition, non pas le centenaire, mais la centième édition du Tour de France. Et on voudrait faire un livre sur la légende du Tour de France. Alors, on en a parlé pendant l'été. En fait, on était dans une case construite par Muriel, l'épouse de Gérard, justement. On a passé 15 jours au bord de l'océan au Sénégal. Et c'est là que il m'a dit: tiens, ça te dirait de faire ce projet-là avec moi? Et j'ai dit banco, sans même réfléchir. Je croyais qu'on allait en fait légender des photos. Pas du tout. On a écrit 100 histoires de légende du Tour de France. Ça a été un carton dès le premier été. Donc entre mai et juillet 2013, on en a vendu plus de 10 000 exemplaires. Ils ont réimprimé. Et dès l'automne, notre éditeur, donc Luc Edouard, nous a dit: et si on continuait et on écrivait un livre tous les ans? Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, les 100 histoires de légende à la conquête de l'impossible sont le 9e de la collection qu'on a commencé donc à l'hiver 2012-2013.
David, vous savez, notre éditeur nous dit: dans la série des beaux livres, 3000 exemplaires vendus, c'est un succès. 3000. Et nous, on en est, avec nos 9 livres, là, à plus de 107 000 vendus.
Ah oui, donc, carrément.
107. Donc, il a re-signé encore au moins pendant 2 ans. Voilà.
Là, on est reparti pour même 10 ans, là, non?
ça marche. Ils ont confiance. Les gens viennent. C'est un cadeau très efficace, en fait. Parce que on s'aperçoit que les femmes achètent ça pour leur mari, pour leur fils, pour leur frère, que les hommes se l'offrent aussi eux-mêmes, ou font les cadeaux d'anniversaire, ou fêtes des pères, des choses comme ça. Parce que, en fait, ce genre de livre-là, c'est une série d'histoires. En fait, c'est ce qu'on aime, nous, avec Julien. C'est pas forcément les palmarès. On les cite, évidemment, dans ces livres-là, les palmarès. Mais ce qu'on aime, c'est « Il était une fois ». C'est des petits secrets, c'est l'environnement, c'est la famille, c'est les accidents, c'est les réussites, c'est tout ce qu'il y a autour de la grande vie du sport et un peu d'aventure avec celui-là.
Mais d'ailleurs, au dos de la collection, vous voyez les 8 premiers livres, au dos du livre, et donc le 9e, le voilà.
Et je sais qu'il y a aussi un 10e en préparation dans quelques semaines, autour des 24 heures du Mans, si je ne me trompe pas.
Alors, ce n'est pas la même collection, c'est un hors-série, c'est-à-dire que oui, on va raconter des histoires, on va raconter les anecdotes, on va raconter les coulisses des 24 heures du Mans, mais ça va être vraiment un livre hors-série et... En termes de livres hors série, justement, on en a écrit un premium sur le Tour de France qu'on a appelé les légendes du Tour de France. Donc oui, c'est-à-dire qu'en fait, notre aventure père-fils, plume à la main, marche tellement bien et on a trouvé notre public que du coup, c'est une nouvelle carrière qu'on a démarrée et qu'on a démarrée avec bonheur ensemble.
Dans le prochain, David, ce sera sans doute le tennis l'année prochaine.
Avec Yannick Noah.
Le 40e anniversaire de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983. Donc, 100 histoires de légende du tennis. Et Dieu sait s'il y en a des histoires. Tu sais, à chaque fois, on a du mal à choisir. Quand Julien commence à compiler tout ce qu'on a en tête, là, par exemple, pour celui-là, où il y avait au moins 250 histoires de possibles sur ce club des intrépides, parce qu'on peut l'appeler comme ça, ce bouquin-là, sur les 100 histoires à la conquête de l'impossible. C'est le club des intrépides. On avait en tête, On avait de raconter les histoires de la voile, des premiers qui ont traversé l'Atlantique, le Pacifique, ont fait le tour du monde, puis la montagne, puis l'air. Bref, et après, il faut choisir. Donc, choisir, c'est éliminer. C'est pas facile, mais on garde la substantifique moelle, comme disait Rabelais.
Vous êtes passionné de sport, de père en fils, tous les deux fans de sport totalement?
Mais oui, et puis le troisième de la dynastie, Antoine aussi, est extrêmement passionné de sport auto. C'est un super pilote de karting. Il a joué en club du foot, au rugby. Il est super bon au tennis, donc oui. Et puis nous, en ce qui nous concerne, les passions qu'on partage avec papa, c'est le cyclisme, la montagne, la haute montagne. On a fait quand même le Mont Blanc tous les trois ensemble avec Antoine. Le cyclisme, la course à pied. À l'époque, on retrouve des photos des années 70 où papa courait avec PPDA sur les Champs-Élysées. Et voilà la photo du
Mont Blanc. On est au sommet du Mont Blanc, là, tous les trois. Antoine, Julien et moi.
Mais quelle expérience!
Ça, c'est un énorme souvenir. Et on le dit souvent, en prenant des précautions, c'est-à-dire avec un guide, avec du bon matériel, en se renseignant sur la météo. Nous, on est parti de Saint-Gervais. On est parti en plus avec une belle philosophie qui était la philosophie de Jean-Marc Payex, le maire de Saint-Gervais. C'était pour ne laisser sur la montagne que les traces de nos pas. Faire très attention à ne jamais polluer la montagne qui est si belle, si belle, si belle. Donc, nous, on a grimpé avec cette idée-là en tête et on a atteint le sommet tous les trois et on a pleuré. Et
justement, à propos du Mont Blanc, nous, en fait, on a mis, entre le moment où on est sorti du tramway au refuge du Nid d'Aigle et le moment où on a touché le sommet, on a mis 24 heures. Faut savoir que Kylian Jornet, lui, en partant de l'église de Chamonix à 1100 mètres d'altitude, il a mis 3h30 pour atteindre le sommet. Et à peine 5 heures pour faire l'aller-retour au total. Kylian Jornet. Donc, en fait, c'est l'opposition de deux philosophies de la montagne. L'éloge de la lenteur et de la sécurité quand on est des clients et quand on n'est pas des experts. Et puis, quand on est un professionnel de la montagne comme lui, ben, en fait, il peut partir en montagne et sans, entre guillemets, ce qu'on dit, c'est s'engager. Voilà. Et ça fait partie des histoires. Alors, dans le livre, on raconte, par exemple, que Kamirita, un Népalais, a un record du nombre d'ascensions de l'Everest, par exemple, dans sa carrière depuis le milieu des années 90. On disait qu'il avait 25, mais en fait, c'est après l'impression du livre, il a déjà réussi son 26e Everest.
Incroyable.
Voilà, donc c'est exceptionnel. On parle de destin et d'aventure exceptionnelle dans ce livre.
Et David, oui. David, comme on n'oublie pas les femmes, on n'oublie jamais les femmes, on est très, très féministe. On se permet de le dire, hein, vraiment, très simplement et très directement. Et on raconte aussi dans ce livre-là les 100 histoires de légende à la conquête de l'impossible de Marie Paradis, qui est la première femme qui a gravi le Mont Blanc le 14 juillet 1808. Et elle est montée en robe. Montée avec des bedillots. Elle n'avait même pas de crampons. C'est un coup d'audace incroyable. De toute façon, une grande partie de toutes les histoires qu'on raconte, c'est l'audace. C'est la fameuse phrase « Il ne savait pas que c'était impossible ». C'est Julien qui l'a retrouvé, de Bernard Shaw ou Twain ?
Mark Twain.
Mark Twain qui dit « Il ne savait pas que c'était impossible et pourtant ils l'ont fait ». Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire « Situs, altus, fortus ». La devise olympique qu'on a collée pour ce livre-là, c'est « Plus haut, plus vite, plus fort ». C'est exactement ça.
Des exemples, c'est par exemple Philippe Croizon, qui s'est retrouvé foudroyé par une ligne à haute tension alors qu'il bricolait sur son toit son antenne en 94, complètement foudroyé. Il a donc été amputé des 4 membres et il a connu un peu une descente aux enfers, une vraie dépression et il a réussi à rebondir. Et puis il s'était dit qu'un jour il allait traverser la Manche à la nage, il l'a fait. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, des exemples de résilience comme ça. Alors, comme on n'est pas complètement sorti du Covid, les exemples de records du Covid. On a par exemple une ultra-traileuse qui s'appelle Allison, une Américaine qui, pendant le premier confinement, s'est retrouvée en Italie avec son mari qui était responsable dans l'événementiel. Et elle s'est retrouvée coincée là-bas et elle s'est dit « qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon confinement ?» Elle s'est mise à courir sur un tapis de course Et tous les jours, elle a couru un marathon. Elle a couru 95 marathons d'affilée sur tapis en 95 jours. Et le 96e jour, elle n'a pas pu aller au bout de son effort. Elle avait une douleur dans la poitrine. Qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait chopé le Covid.
Incroyable. Les histoires sont complètement folles. Vraiment, ce livre, il est passionnant. En plus, c'est un vrai objet aussi, hein, ce bouquin et ce livre. Gérard et Julien, on va un peu accélérer parce que j'ai quand même pas mal de questions à vous poser. Et je sais que j'ai pas non plus toute l'après-midi avec vous, donc je sais que vous avez aussi d'autres occupations. Juste pour reparler de la conquête donc de l'impossible, vous, à quel moment avez-vous repoussé vos limites dans votre vie ?
Alors, Jules, d'abord.
Alors moi, c'est pas au même niveau. Hein,
mais, bien sûr.
Ma première cyclosportive, justement, je l'ai faite un an après avoir démarré le vélo. Et c'était la ronde Picard organisée par Henri Sagnier en Picardie. Je l'ai faite à 29 ou 30 de moyenne. Je me suis entraîné très fort pendant un an. L'année suivante, je suis revenu la faire. Donc, c'est quand même presque 200 bornes.
Ah ouais.
Et je l'ai faite à 37 de moyenne.
Ah oui.
Donc, à la vitesse de très bons cyclistes. Ça, c'est une première. Et c'est vrai qu'en passant la ligne d'arrivée, j'avais des sanglots un peu de fierté, d'émotion. Six ans plus tard, j'ai changé de sport parce que c'est vrai qu'on a moins de temps. Quand on est à fond dans la vie active, on n'a pas forcément le temps de bien s'entraîner. J'ai changé de sport et je me suis mis au marathon. Et j'ai fait le marathon de Paris. Et c'est vrai que là aussi, quand on fait du sport, accomplir des choses comme celle-là, faire un marathon, c'est des petits accomplissements dans une vie.
Gérard ?
Et pour moi, alors, 2003, je me blesse au genou pendant le Dakar. Je suis grave, très grave. Je reste à la maison pendant 2 ou 3 mois. Je relis tous les bouquins concernant le Tour de France, et en particulier sur le premier Tour de France de 1903. Et donc, je me dis que je vais faire moi-même le Tour de France. Et donc, au mois de juin, alors j'ai recommencé à faire du vélo en convalescence. Donc, et au mois de juin, j'ai pris une bicyclette avec un de mes copains retraités qui m'a accompagné en voiture avec un vélo de rechange, avec beaucoup, beaucoup d'eau parce que c'était l'année de la canicule. Et j'ai fait le Tour de France sur les traces de 1903 à 27 km/h de moyenne, mais tout seul. Donc, j'ai fait Paris, Nevers, Nevers, Lyon, Lyon, Avignon, Avignon, Marseille. Voilà, 2 400 km en 11 jours. J'avais un peu repoussé mes limites.
Et il faut le dire que t'étais, après cette aventure, tu étais méconnaissable tellement tu avais… T'avais séché et t'étais maigre.
62 kilos, ouais. J'avais perdu pas loin de 7 kilos, ou 8 kilos, ouais. Ah oui. Ouais, avec la canicule et puis l'effort, ouais. C'est un grand moment.
Vous êtes des malades, en fait. Tous les deux. Non, mais vraiment, c'est incroyable.
Vous savez, dans mon bureau, pendant très longtemps, quand j'étais à France Télévisions, j'avais un poster de chez Nike, où il y avait une danseuse qui était en train de s'entraîner, et en dessous, il y avait marqué, l'extase, c'est de pouvoir progresser chaque jour. Voilà, l'idée, c'est malgré la vieillesse, malgré le temps qui passe, malgré nos activités, c'est d'essayer sans arrêt de se dépasser un peu, de progresser dans tous les domaines, intellectuel, physique, moral, relations humaines, à chaque fois d'essayer de s'améliorer.
Vous avez raison, je vais noter ça, je me le note pour le faire au quotidien. Allez, on passe maintenant à la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. On va essayer de répondre assez rapidement parce que j'ai encore pas mal de questions, hein, je vous avoue, vous poser. Quel sportif auriez-vous aimé être ?
Alors, Julien ?
J'avoue, j'ai un gros faible pour Kylian Jornet. C'est un mec qui a une endurance hallucinante, une agilité aussi sur ses pieds en montagne qui est assez, absolument phénoménale. On fait pas le même gabarit, mais clairement, j'aimerais être aussi affûté, aussi fit que lui, et avec juste une paire de baskets pouvoir aller en haute montagne et me sentir libre comme l'air et en toute sécurité. Et c'est pas le cas.
Et moi, j'aurais adoré être Jean-Claude Killy, son triplé des Jeux Olympiques de 1968. Et puis, pilote de Formule 1 aussi. Alors, un mélange entre Alain Prost, qui est notre copain, et Charles Leclerc aujourd'hui, que je trouve génial, Charles. Là, il a plein d'ennuis avec sa Ferrari et c'est un pilote merveilleux. Et voilà. Donc, Kili et un mélange Prost-Leclerc.
Bon, s'il change d'écurie, Charles Leclerc, ça devrait aller parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il n'est pas verni avec, avec Ferrari. Ah, l'écurie, malheureusement. Allez, on passe à la question des lecteurs. Julien, que retenez-vous de la carrière de votre papa ?
Ben, le fait que il est devenu, il est entré dans le salon des Français et que ben, c'est il a réussi à faire aimer le sport et à le faire vivre sans filtre et avec émotion et que ben, voilà, il n'a pas fait une carrière de télévision. Pour être une star, mais beaucoup plus pour le partage et pour le partage des émotions, mais aussi pour le partage de la connaissance et la bonne appréciation et la bonne compréhension des choses. Donc,
Je t'aime.
je retiens
c'est exactement ça. Ouais.
Je retiens de lui le fait qu'il a été un médiateur et que ses 45 ans de télévision, ben voilà. On fait que les gens l'aiment et l'ont apprécié pour son naturel et pas du tout pour une certaine forme d'arrivisme ou d'ambition de carrière. C'était pas du tout ce qui le représentait.
David, t'as demandé des réponses un peu plus courtes, si je peux me permettre.
Non, mais là, c'est tellement beau que je prends la réponse un peu plus longue.
C'est magnifique.
Non, c'est vraiment beau. Et c'est vraiment ça, effectivement, Gérard. Vous êtes une sorte de passeur, comme ça, passeur d'émotions, ouais. Passeur d'histoire. Moi, j'ai vraiment. J'ai grandi avec vous.
Je me suis jamais considéré comme une vedette ou comme une star. Je suis un messager. Je suis passionné. Je suis passionné par tout dans la vie. Tout m'intéresse. Je suis curieux encore aujourd'hui. Même à la retraite, ça n'existe pas d'ailleurs le mot de retraite pour moi. Je continue à être curieux et à vouloir. Dès que j'ai un défaut terrible, dès que j'aime quelque chose, je veux que tout le monde aime. Voilà. Et donc je suis un passeur. Vous avez raison. Je suis un messager permanent.
Gérard, c'est quoi votre meilleur et votre pire souvenir dans votre carrière ?
Alors un des meilleurs souvenirs, c'est la naissance de mes deux garçons, parce que je les ai reçus tous les deux dans mes mains et c'est moi qui ai coupé le cordon ombilical. Mais ça, c'est pas tout à fait ma carrière, c'est ma vie privée. Avoir créé le Téléthon en 1987 avec Claude Sérillon et Drucker, c'était quand même un très grand moment parce que c'était l'utilité de la télévision, voilà, le service public. On était au service du public. Donc ça, c'est un très très grand moment. Le moment le plus difficile, ça a été la mort de Fabio Casartelli, le cycliste. En 1995, au Portet d'Aspet dans le Tour de France, parce que en fait, on est arrivé avec la voiture avec Jean-François Guy Borel. C'était la chute a eu lieu à 20 mètres de nous. J'ai vu un amoncellement de coureurs. Moi, j'ai relevé Johan Museu, et puis malheureusement, Casartelli était la tête fracassée sur le. C'était un très 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 mauvais souvenir.
Gérard, dans votre carrière, vous avez fait de la télévision. On en a parlé aussi un peu de cinéma, quand même.
Oui, un petit peu, et surtout beaucoup de théâtre, en fait. Parce que ça a été moins médiatisé, mais un petit peu de cinéma, oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Coluche, par exemple, entre autres. À l'époque, c'était que des rôles de journalistes.
Oui, donc, mais c'est quand même incroyable, parce que jouer quand même avec Coluche, bah, c'est quand même, fou.
Ouais. Et c'est devenu, après, c'est devenu, un copain. C'est-à-dire, on n'était pas intime, mais on s'est vu plusieurs fois. Et il m'a même, je vais vous faire une confidence, regarde. Je vais vous faire la confidence. Ça, c'est un carnet de Coluche. C'est-à-dire, j'ai déjeuné un jour avec Coluche. Je le vois prendre des notes à table. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Michel, parce que c'est des Michel Coluche. Ouais. Il me dit, je suis en train de noter les réflexions de la voisine d'à côté parce que ça pourra me servir pour un sketch. Et il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas la même chose ? Et depuis ce déjeuner-là, j'ai mon carnet toujours avec moi. Et je note de temps en temps les réflexions que j'entends, que je vois, alors des choses à la fois drôles et parfois incongrues, des trucs philosophiques. Par exemple, Jacques Chirac qui a dit un jour, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'était le président de la République quand même. Je m'en tape le coquillard avec une patte d'alligator femelle. C'était une phrase de Jacques Chirac. Voilà, entre autres. Et puis, tiens, alors, j'ai une phrase. Puis j'ai aussi, parce que ça m'a tellement marqué. Dans notre livre, parce que j'y reviens, en 1984, il y a un type qui a fait un truc là, lui. Ouais. Bruce McCandless. Son nom est très peu connu. Et pourtant, moi, c'est un des trucs qui m'a le plus bluffé. Et c'est pour ça que quand on en a parlé avec Julien, je lui ai dit, ça serait bien qu'il soit vraiment sur une page entière. Ça a été le premier homme satellite. Il est sorti de la capsule sans câble. Et il y a la fameuse photo où il est sur fond, ouais, avec le fond de la Terre, là. Voilà. Alors, mais par exemple, c'est dans mon carnet de Coluche aussi.
Ok, bah voilà, on en apprend vraiment. Hein. J'aime bien ces petites histoires. Je pourrais rester des heures avec vous. Hein. Je vous le dis.
C'est important, nos amis belges. C'est très important. Ah,
mais j'ai l'impression que je vais passer mes vacances chez vous, hein, la famille. Hein. je vais venir cet été. Hein. Allez, on passe maintenant au coup de pression. Gérard, allez, pour vous cette question. Regrettez-vous d'être parti de France Télévisions ?
Ah non, zéro. Non, non, j'ai aucun regret. C'était pensé, et puis surtout, alors j'ai basculé pour deux raisons. J'ai basculé par amour, parce que c'est le moment où ma femme d'amour a été nommée à Rome directrice de la Villa Médicis, Muriel. Donc ça a fait une vraie césure. Je suis parti là-bas avec le cœur en joie. Et puis la deuxième raison, c'est que j'avais prévu et de basculer à faire des livres avec mon fils Julien et à jouer au théâtre. Et donc, aucun regret.
Mais on vous a proposé, je suppose, depuis que vous faites moins de télé, voire plus de télé, on vous a déjà proposé de retravailler,
alors, non? Oui, alors non seulement ma présidente Delphine Ernotte m'avait dit, Gérard, malgré l'âge, vous restez. Moi, je vous fais un contrat de consultant et vous restez. Elle a une phrase extraordinaire, parce que vous êtes une marque, elle m'a dit. Ce qui était plutôt vraiment très, très gentil. Contrairement à beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs qui ont été éjectés du style Catherine Sellac, David Pujadas ou Patrick Sébastien. Moi, on voulait que je reste, d'une part. Et puis après, oui, j'ai eu une proposition, par exemple, étonnante quand j'étais à Rome. Maintenant, je parle italien. Adesso, oggi parlo italiano. Si. La RAI m'a dit, vous pourriez faire peut-être le Jean-Paul Olivier pour le Tour de France, c'est-à-dire de raconter les villages, les villes, les châteaux en italien pendant le Tour de France. Et puis, j'ai pas pu le faire parce que cette année-là, je jouais au théâtre à Rome. Mais c'eût été quand même très, très rigolo.
Eh bien, sinon, si c'était possible, oui, c'était oui.
Oui, avec plaisir. Oui, je l'aurais fait avec plaisir pour la RAI. Oui, oui. Campiachère, ici.
Et est-ce qu'en France, pas de retour possible, même dans des émissions?
J'ai eu des propositions, ouais. Oui. J'ai eu encore une très récente. Je suis passé dans une émission de télévision très récemment, je peux le dire, sur C8, voilà, avec Pascal Pro. Et un des patrons a appelé Pascal Pro en demandant mon téléphone pour me proposer quelque chose.
Ouais. Et, vous allez dire quoi?
Pour l'instant, je dis non. Non, pour l'instant, je dis non. Non, pour l'instant, je joue au théâtre, vous savez. Donc, je suis en tournée avec une pièce qui s'appelle « Vive le sport et ses petits secrets ». Je recommence le 8 septembre à Nevers, par exemple, là, dans la Nièvre. Puis après, je vais aller à Belfort, je vais aller en Alsace, enfin bref. Il y a les prochains livres, 24 heures du Mans, le tennis, la belle vie à Nice. C'est une ville absolument merveilleuse.
On termine par Dans la vraie vie, justement, des questions sur votre vie, la vie la moins connue. Dans la vraie vie, Gérard, vous êtes quel style de papa? La question s'adresse aux deux. Hein.
Alors, c'est Julien qui va commencer par répondre d'abord.
Alors, un papa poule et un guide de haute montagne, je dirais. Le premier de cordée, c'est-à-dire que voilà, pendant des années, il m'a fait goûter à des choses, découvrir des choses. Il m'a emmené dans son baluchon pour vivre les événements sur lesquels il travaillait. Donc, j'ai eu une enfance et une adolescence extrêmement riches de découvertes et d'apprentissage, avec beaucoup de privilèges, il faut le reconnaître, grâce à sa notoriété, pardon, et grâce à son travail. Et ça m'a construit, ça a développé ma curiosité, ça a attisé aussi ma soif de vivre, pour que moi, maintenant qui suis à fond dans la vie active, j'ai aussi cette envie de réussir, cette envie de construire ma vie et de réussir cette vie comme lui l'a faite. Et c'est pour ça que du coup, je milite énormément pour qu'on développe nos collections, nos livres, et que j'ai pas envie de le laisser se reposer sur ses lauriers, même s'il s'est mis en retrait de la télévision.
J'utilise sa culture du sport et sa notoriété pour qu'on construise ensemble cette carrière d'écrivain et d'auteur.
Alors David, quel genre de papa j'étais, ou je suis encore, sur le frigo à la maison, j'avais scotché une phrase d'une pub qui était « Deviens ce que tu es ». Voilà. Et pour mes fils, ça a été ça, c'est-à-dire développer le sens critique, développer la curiosité, leur faire connaître des choses, leur donner des valeurs. Des valeurs, par exemple, de lutter contre le racisme, de lutter aussi contre l'extrémisme, contre tout ce qui peut me opposer les hommes et les femmes les uns les autres. Voilà. Guider avant toute chose.
Réfléchir aussi, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de penser, c'est-à-dire que le racisme, l'exclusion, par exemple, dans cette société aujourd'hui qui se fracture de plus en plus, il faut savoir nuancer son discours, nuancer ses décisions, nuancer ses opinions. Il faut essayer de relativiser systématiquement. Faut essayer de se retenir, faut pas être sanguin. Et ça, c'est super important. Et c'est pas parce que, en effet, on va au bout des choses et qu'on dépasse nos limites dans l'effort, que justement, il faut perdre la lucidité face aux choses de la vie, face aux choses communes et à la vie en commun.
Voilà ce que j'ai répété pendant des années.
Ça a fonctionné. Quatre petites questions et après j'en ai fini, je vous le promets. Après, je vous laisse tranquille. Est-ce que vous avez regretté d'avoir fait certaines choses dans tous les deux, hein? Est-ce que Gérard, dans votre vie, vous avez regretté certaines choses, et Julien, est-ce que vous avez regretté?
Moi, professionnellement, par exemple, oui, j'ai regretté deux choses, par exemple. Une émission, d'avoir dit oui pour une émission où je n'étais pas d'accord dès le départ, qui s'appelait Sportissimo. Moi, j'avais proposé de faire un magazine de grands reportages sur le sport. Et puis, au fur et à mesure, la production m'a balancé petit truc, changement. J'aurais dû dire non, j'aurais dû être plus sévère. Et puis, les conditions dans lesquelles je suis arrivé aussi au journal de 13h, parce que j'ai refait le journal de 13h à un moment. J'étais très flatté qu'on m'ait choisi parce qu'il y avait eu un sondage comme quoi j'étais le plus sympathique, le plus simple, le plus direct, etc. Et en fait, j'ai pas été bien entouré. Je me suis pas assez entouré pour me protéger parce que il y a des bagarres internes dans une rédaction pour faire passer ses idées. Donc j'ai un peu regretté. Ouais. J'ai regretté d'avoir fait le 13h dans ces conditions-là. Pas d'avoir fait le journal, mais dans ces conditions-là.
Julien?
Et puis moi, ben en fait, quand j'étais adolescent au collège et au lycée, j'avais un petit don pour le dessin que j'ai développé, et jusqu'au point où, après le bac, ben, je me suis présenté aux écoles d'art appliqué à Paris, et notamment l'école Olivier de Serres, qui était spécialisée en design automobile et en design de produits. Et je me suis lamentablement planté, c'est-à-dire qu'on était 1200 au concours d'entrée, ils n'en prenaient que 30 par promotion. Donc j'ai gardé cette petite frustration de ne pas être allé au bout de ça, mais en même temps on comprend, hein, que c'est une forme d'élite et qu'ils ne gardent que les meilleurs. Il faut accepter aussi parfois sa finitude. Et puis ça, c'est une des phrases justement que papa a souvent prononcé dans sa vie: quand on te ferme la porte et que tu as vraiment envie, il faut savoir rentrer par la fenêtre. Et en l'occurrence, la carrière que j'ai développée d'une façon un peu alternative est une carrière qui a un lien avec le design, puisque j'ai développé une carrière dans le digital comme consultant en expérience utilisateur et comme ce qu'on appelle UX designer. Et je suis désormais maintenant coach dans une agence digitale à Paris. Et j'accompagne justement les entreprises dans l'innovation digitale et dans la réflexion sur la création d'applications et de sites. Et tout ça, ça a un lien justement avec ce que je suis et enfin avec mes qualités. Mais donc voilà, la petite frustration justement de la porte qui se ferme et du coup de savoir rebondir aussi. C'est important de savoir rebondir.
Je vais noter toutes les petites phrases de Gérard qu'il a pu vous donner, parce que vraiment il y a des phrases quand même très importantes là. Depuis une demi-heure, j'ai plein de bons conseils pour la suite. Hein. Autre question, la notoriété a-t-elle été parfois négative pour votre famille?
Du coup, je vais en parler un peu, parce que c'est vrai que par ricochet, on en a un peu souffert de deux façons. La première, c'est qu'à certains moments, on avait l'impression que notre père ne nous appartenait pas. Quand on était en public et qu'il y avait des grappes de personnes autour de lui qui gravitaient,
Et puis, c'est vrai qu'à travers notre scolarité, parce que ces années de collège sont des années où les enfants et les adolescents se cherchent et parfois font des choses qui ne sont pas forcément sympas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la notoriété n'est pas forcément comprise ou acceptée et que on est un peu mis de côté. Donc moi, pendant ces années-là, je ne les ai pas forcément bien vécues. En plus, c'était le moment où papa était au top de sa carrière et était vraiment l'un des 10 personnages les plus médiatiques du PAF. C'est une période que je n'ai pas super bien vécue, mais après, au-delà de ça, à partir de 17-18 ans, ça a complètement changé parce que justement, les jeunes à ce moment-là commencent à avoir un regard un peu plus critique sur les choses et un peu plus de recul déjà.
Gérard?
Ah c'était très simple en fait. C'était des moments gâchés, c'est-à-dire des moments en famille où on partait en vacances et puis il y a des gens qui me tiraient par l'épaule pour faire une photo. Alors que j'étais avec mes fils en train de rigoler, en train de parler, en train de faire quelque chose, on était à table et on nous interrompait une fois, deux fois, trois fois, on marchait dans la rue, voilà, oui. Donc tout ça c'était de la gentillesse et encore aujourd'hui, dans les rues de Nice, je me balade avec des sourires, des clins d'œil et beaucoup, beaucoup de merci. Merci, vous nous avez fait aimer le sport, c'est ce que Julien a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand on est avec ses amours, avec ses fils, avec sa femme, en train de marcher dans une bulle, d'une certaine façon. On est obligé de sortir dans la bulle pour s'offrir une photo. Donc, parfois, ça gâtait un peu. Voilà.
Mais encore aujourd'hui, moi, je suis marié à Julie Poirier, qui est journaliste à France 2. Et c'est vrai qu'elle ne fait pas ce métier pour être célèbre. Elle ne fait pas ce métier pour que... elle ne puisse pas aller acheter ses courses avec les cheveux mal coiffés en jogging et qu'on l'importune ou qu'on la dérange. Et c'est vrai que à partir du moment où vous êtes dans la télévision, dans le poste de télévision et que vous rentrez dans la vie des gens, les gens en fait ils ont une partie de vous en eux et ils ont l'impression presque que vous leur appartenez. Et donc après, ça casse la distance qu'on pourrait avoir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, papa, il ne peut pas se balader aujourd'hui.
Oui, c'est quelque chose de très spécial parce que Gérard, votre notoriété, elle est immense. Je suppose que dans la vie, il y a même des gens dans votre... je sais pas, je suppose que quand on est en famille avec des enfants, etc., que quelqu'un vous dit « Ah, viens faire une photo », même des fois, on pourrait dire « Désolé, mais je suis en famille », et même après, votre image pourrait dire « Ah, donc, il est pas sympa, Gérard, il veut pas faire de photo », mais on peut comprendre aussi, les gens ont du mal parfois à se dire « il y a une intimité aussi à respecter, une famille, il est pas dans sa profession, là, il est en train de partager un moment familial, quoi ».
Au début, lorsque j'ai commencé à passer à la télévision, j'ai refusé les autographes. Je disais, mais non, ça sert à rien, qu'est-ce que je vais signer sur votre ticket de métro, etc. Et après, j'étais tellement obligé de m'expliquer sur le pourquoi ça durait 10 minutes. Donc après, je me suis dit, je signe avec un petit coucou, avec un petit bisou, et puis c'est bon. Et on passe à autre chose. C'est gentil. Surtout, moi, je pensais que ça allait disparaître. C'est-à-dire que quand je suis parti à Rome pendant 3 ans, je me suis dit, au retour, ça va, je vais être tranquille. Alors déjà, à Rome, il y avait des quarts de touristes qui passaient dans la Villa Médicis et de temps en temps, c'était presque l'enfer, presque. Et là, c'est incroyable, depuis que je suis revenu, ce qui me revient, c'est « vous avez bercé mon enfance ». Et à Monoprix l'autre jour, je pousse le caddie, j'ai une femme devant moi qui se retourne une fois, deux fois, trois fois, et à un moment, elle dit « et ne me dites pas que c'est pas vous hein. ».
C'est énorme. Dernière question.
Ne me dites pas que c'est pas vous.
On fait une dernière question, la famille. Dernière question. Quel rêve vous reste-t-il à accomplir?
Moi, j'en ai 150.
Ah oui.
C'est pareil. Moi, je fais des fiches. Je fais des fiches, les fameux. Alors, j'aime pas trop l'anglais. On a tellement une belle langue, vous les Belges et nous les Français, qu'on partage avec plaisir, même s'il y a le flamand aussi, mais bon. Mais j'ai des tout doux, c'est-à-dire moi je me fais des feuilles avec des choses à faire. Oui, je veux apprendre à piloter un avion, un stamp, l'avion de Out of Africa, bon. Je veux traverser l'Atlantique à la voile. Je veux peut-être être un jour ou l'autre être le maire d'un village, pourquoi pas. Alors Nice c'est un peu grand et puis surtout Estrosi fait un bon boulot donc bon mais entre autres qu'est-ce qu'il y a, je voulais jouer des grandes pièces ça y est, c'est fait. Je vais jouer Marivaux, là, 19 août à Nice. Voilà. Non, et puis, voilà. Puis maintenant, je vais me tourner du côté de Julien. Il y a encore des belles choses à faire, mon Jules, n'est-ce pas? Il y a même une pièce spéciale dans ton appartement maintenant pour ça, n'est-ce pas?
C'est ça. Alors, en fait, moi, c'est tout simple. Hein. C'est soit acheter une petite maison à retaper dans l'arrière-pays normand ou en Haute-Savoie, là où on s'est marié à Saint-Gervais. J'en rêve. Mais pour ça, du coup, pour pouvoir réaliser ce rêve qui est un peu plus loin, bah, on va avancer un peu comme le petit chaperon rouge, on va avancer caillou par caillou. Et le premier rêve, ça va être de continuer de faire des livres qui se vendent bien et que justement ces ventes nous permettent justement d'accomplir des rêves qu'on a. Et pourquoi pas, peut-être dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent aussi, de passer de la plume à la caméra et de pourquoi pas de transformer nos histoires en histoires télévisuelles, pourquoi pas. Donc, ça fait partie aussi des rêves et des petites ambitions qu'on peut avoir tous les deux avec papa.
Il y a aussi, il faut l'avouer, David, travailler pour Télépro aussi. Voilà.
Si vous voulez venir.
Des articles ou passer un peu peut-être dans le digital Télépro, ça peut être aussi intéressant. Mais on en reparlera.
D'accord, alors si on peut signer les contrats maintenant, ça m'arrangerait. Je prépare les contrats. Bon, j'espère que vous êtes moins cher qu'à France Télévisions parce qu'on a un peu de budget quand même. Gérard, je
viens vous le dire. Ouais, c'était le service public, là.
Je sais, mais.
Beaucoup moins bien payé que sur TF1.
Je sais que vous avez déjà parlé aussi à TV Mag récemment de ces grilles de salaire à France Télévisions. Mais à Télépro, on est encore en dessous du service public, hein, je tiens à vous le dire. Donc, mais c'est vrai que ça serait intéressant parce que là depuis une demi-heure, merci beaucoup d'avoir accordé ce temps déjà. On est en direct et merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là pour nous expliquer. Mais vous êtes tellement passionnants tous les deux. On sent la complicité, on sent les histoires, on sent la passion, on sent tellement tout. Et c'est retranscrit dans les livres. On espère maintenant aussi effectivement le voir soit à la télévision et même sur Twitch. Hein, Julien, n'hésitez pas à mettre votre papa sur Twitch avec vous. Parce que je pense que là, ça peut faire aussi des cartons d'audience sur le digital. J'en suis persuadé que ça fonctionnerait parce que vraiment, c'est passionnant à retrouver sans histoire de légende, la conquête de l'impossible. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci David. Merci. Belle journée.
À bientôt sur Télépro.
Télépro.
Tu l'as lu, t'as tout vu.